Dubrovski, chapitre 2. Ainsi tout est terminé, se dit Vladimir. Ce matin encore, j'avais un coin et un morceau de pain. Demain, je dois quitter la maison dans laquelle je suis né. La terre où repose mon père appartiendra à l'homme que je déteste, qui est cause de sa mort et de ma pauvreté. Vladimir grinça des dents et ses yeux s'arrêtèrent immobiles sur le portrait de sa mère. Le peintre l'avait représenté appuyé sur une balustrade en peignoir blanc avec une rose dans les cheveux. « Et ce portrait deviendra aussi la propriété de l'ennemi de ma famille, » pensa Vladimir. « Il sera jeté à la chambre de débarras avec les chaises cassées, ou bien il sera pendu dans l'antichambre et deviendra l'objet de la risée et des colibets de ses piqueurs. » Dans la chambre à coucher où est mort mon père, il installera ses employés ou son harem. Non, non, il ne faut pas qu'il ait la triste maison de laquelle il me chasse. Vladimir grinça des dents. De terribles idées passaient dans son cerveau. Les voix des employés de police arrivaient jusqu'à lui. Il s'organisait, demandait ceci et cela, et se réjouissait d'une manière désagréable au milieu de ses tristes réflexions. Enfin, tout se tut. Vladimir ouvrit les commodes, les tiroirs, et s'occupa de ranger les papiers du défunt. Ils se composaient pour la plupart de comptes de ménage et de lettres sur différentes affaires. Vladimir les déchira sans les lire. Parmi ces lettres, il trouva un paquet avec l'inscription suivante « Lettre de ma femme ». Avec une profonde émotion, Vladimir se mit à les lire. Elle datait du temps de la campagne de Turquie et était adressée de Christianovna à l'armée. Elle lui dépeignait sa vie à la campagne et ses occupations à la maison. Avec tendresse, elle se plaignait de leur séparation et l'invitait à venir à la maison dans les bras de sa chère amie. Dans l'une, elle l'informait de son inquiétude au sujet de la santé du petit Vladimir. Dans une autre, elle se réjouissait de ses capacités hâtives et lui prédisait un avenir heureux et brillant. Vladimir lisait et, plongé dans ses souvenirs de bonheur domestique, il ne s'aperçut pas comme le temps passait. La pendule sonna 11 heures. Vladimir mit les lettres dans sa poche, prit la chandelle et sortit du cabinet. Dans la salle, les employés dormaient par terre. Sur la table, il y avait des verres qu'ils avaient vidés et une forte odeur de rhum était dans toute la pièce. Vladimir passa devant eux avec dégoût et alla dans l'antichambre. Là, il faisait sombre. Quelqu'un, en voyant de la lumière, se jeta dans un coin. Allant vers lui avec la chandelle, Vladimir reconnut Archip, le forgeron. « Mais pourquoi es-tu ici ? » lui demanda-t-il avec étonnement. « Je suis venu voir si tout le monde est à la maison, » répondit Archip tout bas en bégayant. « Et pourquoi as-tu cette hache ? » ?»«
Pourquoi cette hache ? Mais comment aller la nuit sans hache ? Ces employés sont de tels insolents qu'il faut toujours être prêt.
Allez, tu es ivre, laisse cette lâche et va t'en donner, dormir.
Moi, ivre, mon petit père Vladimir Andreïevitch, Dieu m'est témoin que je n'ai pas bu une goutte et je n'ai pas envie de boire. A-t-on jamais vu chose pareille? Ces ronds de cuir ont imaginé de s'emparer de nous, de chasser notre maître de la maison seigneuriale. Oh, ils rompent ces maudits. Faudrait d'un seul coup en finir avec eux. »
Dubrovski fronça le sourcil. « Écoute, Archip, lui dit-il après quelques silences. Laisse tes projets. Les employés ne sont pas coupables. Allume un peu la lanterne et viens avec moi. » Archip prit la chandelle des mains de son maître, prit la lanterne derrière le poêle, l'alluma, et tous deux descendirent doucement du perron et s'en allèrent visiter la cour. Le veilleur de nuit se mit à frapper sur sa plaque de fonte. Les chiens commencèrent à aboyer. « Qui est de garde ?» demanda Dubrovski. «
C'est doux, petit père !» répondit une voix finette. « Vassilissa et Lukeria !»«
Allez-vous-en chez vous !» leur dit Dubrovski. « On n'a pas besoin de vous !»«
Congé !» murmura Archip. « Merci, petit père !» répondirent les deux femmes qui s'en allèrent aussitôt chez elles.
Dubrovski s'en alla plus loin. Deux hommes s'approchèrent de lui et l'appelèrent. Dubrovski reconnut la voix d'Antoine et de Grisha. « Mais pourquoi ne dormez-vous pas ?» leur demanda-t-il.
« Est-ce le moment de dormir ?» répondit Antoine. « Nous avons trop vécu. Qui aurait pu penser ?»«
Plus bas !» interrompit Dubrovski.
« Oui, Grovna.
Va, amène-la ici. » Et fais sortir de la maison tous nos gens pour qu'il n'y reste pas âme qui vive en dehors des employés. Et toi, Antoine, attelle la carriole. » Grisha partit. Une minute après, il arriva avec sa mère. La vieille ne s'était pas déshabillée cette nuit, sauf les employés. Personne n'avait fermé l'œil. « Tout le monde est ici ?» demanda Dubrovski. « N'est-il resté personne dans la maison ?»
« Personne, sauf les employés, » répondit Grisha.
« Donnez-moi du foin et de la paille, » dit Dubrovski. Les gens coururent à l'écurie et en rapportèrent des bottes de foin.
« Oui, mais était-il sous le perron, c'est ça ?»«
Eh bien, les enfants, du feu !» Archipé ouvrit la lanterne. Dubrovski alluma une poignée de copeaux. « Attends, » dit-il à Archipé. « Je crois que dans ma précipitation, j'ai fermé la porte de l'antichambre. Va l'ouvrir vite !»
Archip courut dans l'antichambre. La porte était ouverte. Il la ferma à clé, disant à voix basse,
« Vas-y voir que je l'ouvrirai !»
Et il revint près de Dubrovski. Celui-ci approcha les copeaux. Le foin se mit à flamber. Les flammes se tordaient et éclairaient toute la cour.
« Oh !» s'écria tristement Yegorovna. « Vladimir Andreevitch, que fais-tu »«
Tais-toi !» dit Dubrovski. « Eh bien, mes amis, adieu, je pars où Dieu me conduira. Je vous souhaite du bonheur avec votre nouveau maître. »«
Mais tu es notre père, notre bienfaiteur !» crièrent les gens. « Nous mourrons, nous ne t'abandonnerons pas, nous irons avec toi !»
Les chevaux avancèrent. Dubrovski s'assit avec Grisha dans la carriole. Antoine frappa les chevaux et ils sortirent de la cour. En un instant, la flamme embrasa toute la maison. Les parquets craquaient et tombaient en cendres. Les poutres enflammées se mirent à tomber. Une fumée rouge tourbillonnait au-dessus du toit. On entendit un gémissement et un cri plaintif.
« Au secours, au secours !»«
Vas-y voir, » dit Archipé, contemplant l'incendie avec un sourire méchant.
« Mon cher Archipé, » lui dit Yegorovna, « sauve ces misérables, Dieu te récompensera. »«
Cours y voir, » répondit le forgeron. À ce moment, les employés se montrèrent à la fenêtre, essayant de briser les doubles châssis. Mais alors le toit s'effondra avec fracas et les gémissements se calmèrent. Bientôt, tous les paysans accoururent dans la cour. Les femmes, en criant, se dépêchaient de sauver leurs ustensiles. Les gamins sautaient en regardant l'incendie.
« Tout va bien maintenant, » dit Archipé. « Comme ça brûle bien, hein ?» dit Polkovski. « Peut-être un beau spectacle. »
À ce moment, un nouvel incident attira l'attention. Un chat courait sur le toit du hangar en feu, ne sachant où sauter. De tous côtés, les flammes l'entouraient. La pauvre bête, avec un miaulement plaintif, appelait à son secours. Les gamins mouraient de rire en voyant sa détresse.
« Pourquoi rire, petit diable ?» leur dit le forgeron furieux. « Vous craignez donc pas Dieu ? Une créature de Dieu qui périt, et vous êtes fou de joie !»
Puis, plaçant une échelle contre le toit en feu,
Il monta chercher le chat. Celui-ci comprit son intention et, avec un empressement reconnaissant, il s'accrocha à sa manche. Le forgeron, à demi brûlé, descendit avec sa capture. « Eh bien, enfant, adieu, » dit-il au paysan étonné. « Nous n'avons plus rien à faire ici. Bien du bonheur et ne gardez pas un mauvais souvenir de moi. » Le forgeron s'en alla. L'incendie continua à faire fureur encore quelque temps et enfin s'apaisa. Les monceaux de braise sans flamme continuaient à brûler dans l'obscurité de la nuit et autour erraient les habitants incendiés de Kistianovka. Le lendemain, la nouvelle de l'incendie se répandit dans tout l'arrondissement. Tous en parlaient avec des suppositions et des commentaires différents. Les uns affirmaient que les gens de Dubrovski, s'étant enivrés à l'enterrement, avaient mis le feu à la maison par imprudence. Les autres accusaient les employés qui avaient fêté le nouveau propriétaire. D'autres devinaient la vérité et affirmaient que le véritable coupable de cet affreux sinistre était Dubrovski lui-même. Beaucoup disaient qu'il avait été brûlé avec les employés et avec ses paysans. Troïkourov arriva le lendemain sur le lieu du sinistre et fit lui-même l'enquête. Il fut constaté que le commissaire, le membre du tribunal de district, le secrétaire et le scribe avaient disparu ainsi que Vladimir Dubrovski, la nourrice Yegorovna, le domestique Grisha, le cocher Antoine et le forgeron Archipet. Tous les gens déposèrent que les employés avaient été brûlés au moment où le toit s'était effondré. Leurs ossements calcinés furent déterrés de dessous les décombres. Les femmes, Vassilissa et Lukeria, dirent qu'elles avaient vu Dubrovski et Archipet le forgeron quelques minutes avant l'incendie. Le forgeron Archip, d'après les dépositions en général, devait être vivant et selon toute probabilité devait être le principal, sinon le seul coupable. On avait de graves soupçons sur Dubrovski. Cyril Pietrovitch envoya au gouvernement un récit détaillé de tous les faits et un nouveau procès s'en suivit. Bientôt de nouveaux faits fournirent un nouvel aliment à la curiosité et aux discussions. Des brigands firent leur apparition et répandirent la terreur dans tous les environs. Les dispositions prises contre eux restèrent sans résultat. Des vols, plus audacieux les uns que les autres, se succédèrent. Il n'y avait plus aucune sécurité sur les routes et dans les villages. Plusieurs troïkas, remplis de brigands, parcouraient toute la province en plein jour, arrêtaient les voyageurs et la poste, se présentaient dans les villages, pillaient les propriétés, les incendiaient. Le chef de la bande était célèbre par son esprit, sa hardiesse et une certaine magnanimité. On racontait de lui des merveilles. Le nom de Dubrovski était dans toutes les bouches. Tous étaient convaincus que lui et personne d'autre était le chef de ces hardis brigands. On s'étonnait seulement d'un fait. La propriété de Triekourov était épargnée. Les brigands n'avaient chez lui pillé ni un hangar ni arrêté une charrette. Avec son aplomb habituel, Troïkourov attribuait cette exception à la peur qu'il avait su inspirer dans toute la province et aussi à la bonne police qu'il avait organisée dans ses villages. D'abord, ses voisins riaient de son arrogance, et chacun attendait le moment où les hôtes inattendus visiteraient Potrovski, où ils trouveraient de quoi profiter. Mais à la fin, ils furent obligés de convenir et d'avouer que les brigands lui témoignaient une estime incompréhensible. Troïkourov triomphait, et à la nouvelle de chaque brigandage de Dubrovski, se répandait en allusion sur le compte du gouverneur, des commissaires de police et des chefs de brigade de gendarmerie, qui laissaient toujours Dubrovski impuni. Cependant, le 1er octobre, fête de la paroisse de Tchekouvov, arriva. Mais avant que nous entamions la description des faits ultérieurs, Nous devons faire connaissance au lecteur de personnages nouveaux pour lui ou qu'on a mentionnés seulement au commencement de notre nouvelle. Le lecteur a sans doute déjà deviné que la fille de Cyril Pietrovitch, dont nous avons dit seulement quelques mots, est l'héroïne de notre nouvelle. À l'époque décrite par nous, elle avait 17 ans et sa beauté était dans son épanouissement. Son père l'aimait à la folie, mais la traitait avec l'humeur capricieuse qui lui était propre, tantôt s'efforçant de satisfaire ses caprices, tantôt l'effrayant par ses manières sévères et quelquefois cruelles. Sûr de son attachement pour lui, il n'avait jamais pu obtenir sa confiance. Elle prit l'habitude de lui cacher ses sentiments et ses pensées, parce qu'elle ne pouvait jamais savoir sûrement comment il les prendrait. Elle n'avait pas d'amis et avait grandi dans la solitude. Les femmes et les jeunes filles des voisins venaient rarement chez Cyril Pietrovitch, dont la conversation habituelle et les plaisirs exigeaient des compagnons masculins et l'absence de dames. Ce n'est que rarement que notre belle paraissait au milieu des invités qui festoyaient chez Cyril Pietrovitch. L'immense bibliothèque, composée pour la plupart des œuvres des écrivains français du XVIIIe siècle, avait été mise à sa disposition. Son père, qui n'avait jamais rien lu, sauf la cuisinière modèle, ne pouvait la guider dans le choix des livres, et mâcha, tout naturellement, après avoir feuilleté des œuvres de toute espèce, s'arrêta au roman. C'est de cette manière qu'elle compléta son éducation, commencée autrefois sous la direction de Mademoiselle Michaud, à laquelle Cyril Pietrovitch témoignait une grande confiance et même de l'inclination, si bien qu'il fut enfin obligé de l'envoyer sans bruit dans une autre propriété lorsque les suites de cette liaison devinrent trop visibles. Mademoiselle Michaud avait laissé un assez agréable souvenir. C'était une bonne fille et jamais elle n'abusait de l'influence visible qu'elle avait sur Cyril Pietrovitch, ce qui la distinguait des autres favorites changées fréquemment. Cyril Pietrovitch lui-même paraissait l'aimer plus que les autres, et un gamin aux yeux noirs et espiègle de 9 ans, qui rappelait les traits méridionaux de Mademoiselle Michaud, était élevé chez lui et reconnu comme son fils, malgré la foule de gamins pieds nus qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Cyril Pietrovitch et qui couraient devant ses fenêtres et étaient regardés comme serfs. Cyril Pietrovitch fit venir de Moscou pour son petit Sacha un précepteur français qui arriva à Pokrovski au moment des événements rapportés par nous. Ce maître plut à Cyril Pietrovitch par son extérieur agréable et ses manières simples. Il présenta à Cyril Pietrovitch des certificats et une lettre d'un des parents de Troïkourov, chez lequel il avait été précepteur pendant 4 ans. Cyril Pietrovitch examina le tout et fut mécontent seulement de la jeunesse du français, non pas parce qu'il pensait que cet agréable défaut était incompatible avec la patience et l'expérience, si nécessaires dans les fonctions ingrates de précepteur, mais parce qu'il avait des doutes qu'il résolut de lui exposer tout de suite. Pour cela, il ordonna de faire venir Macha. Cyril Pietrovitch ne parlait pas français et elle lui servait de traducteur. « Viens ici, Macha. Dis à ce monsieur que je l'accepte, mais à la condition qu'il n'osera pas rôder autour de mes jeunes filles. Autrement, ce fils de chien, je lui... enfin, traduis cela, Macha. » Macha rougit et s'adressant au précepteur, elle lui dit en français que son père comptait sur sa modestie et sur sa bonne conduite. Le français salua et répondit qu'il espérait mériter leur estime, même si on lui refusait la bienveillance. Macha traduisit textuellement sa réponse. « Bien, bien, » dit Cyril Pietrovitch. Il n'a besoin ni de bienveillance ni d'estime. Son affaire est de surveiller Sacha et de lui apprendre la grammaire et la géographie.
Traduis-lui. Marie Kirillovna adoucit dans sa traduction les grossières expressions de son père, et Sidi Pietrovitch envoya son français dans l'aile du bâtiment où lui était désignée une chambre. Macha ne fit pas la moindre attention au jeune français. Pour elle, élevée dans les préjugés aristocratiques, le précepteur était un genre de domestique ou d'ouvrier, et domestique comme ouvrier n'étaient pas des hommes pour elle. Elle ne remarqua ni l'impression qu'elle avait produite sur M. Desforges, ni son embarras, ni son trouble, ni sa voix altérée. Plusieurs jours ensuite, elle le rencontra, souvent, sans l'honorer d'une grande attention. C'est d'une façon inattendue qu'elle eut de lui une toute autre idée. Dans sa propriété, Cyril Pietrovitch élevait ordinairement quelques jours, et c'était l'un des plus grands plaisirs du propriétaire de Pokrovski. Quand ils étaient petits, les oursons étaient amenés journellement dans le salon, où Cyril Pietrovitch s'amusait avec eux des heures entières, les faisant lutter avec des chats et de petits chiens. Devenus grands, ils étaient enchaînés en attendant le véritable chasse à cour. Parfois, on les amenait devant les fenêtres du château, et on roulait pour eux un tonneau vide hérissé de clous. L'ours le flairait, puis doucement le touchait, se piquait la patte, se fâchait, le poussait de plus belle et le mâle devenait plus fort. Il entrait dans une véritable rage, se jetait sur le tonneau avec un rugissement, jusqu'à ce qu'on enlevât à la pauvre bête l'objet de sa rage inutile. Parfois, on attelait une paire d'ours à une carriole, et bon gré mal gré, on y asseyait les invités, et on les lâchait à la grâce de Dieu. Mais sa plaisanterie préférée était la suivante. Il enfermait parfois dans une chambre vide un ours affamé, attaché à un anneau dans le mur par une corde. La corde était presque de la longueur de la chambre, de sorte que seul le coin opposé pouvait être à l'abri des attaques du terrible animal. Le novice était ordinairement amené à la porte de cette chambre. On l'y poussait comme par hasard. On fermait la porte et la malheureuse victime restait en tête avec l'ermite fourré. Le malheureux invité, avec un pan de son habit déchiré, le bras écorché, trouvait bientôt le coin sans danger. Mais parfois il était obligé de se tenir 3 heures collé au mur et de voir l'animal en colère à 2 pas de lui, sauter, se mettre sur ses pattes de derrière, grogner et faire tous ses efforts pour l'atteindre. Tels étaient les nobles plaisirs de ce gentilhomme russe. Quelques jours après l'arrivée du précepteur, Troyekourov se ressouvint de lui et se disposa à lui faire goûter de la chambre à l'ours. Dans ce but, il le fit appeler un matin et le conduisit par des corridors obscurs. Tout à coup, une porte de côté s'ouvrit. 2 domestiques poussèrent le français dans la chambre et y enfermèrent à clé. Revenu à lui, le précepteur vit devant lui un ours attaché. L'animal commença à flairer son visiteur de loin, et tout à coup, s'étant dressé sur ses pattes de derrière, il marcha droit à lui. Le français ne perdit pas son sang-froid. Il ne recula pas et attendit l'attaque. L'ours s'approcha. Desforges sortit de sa poche un petit pistolet, l'enfonça dans l'oreille de l'animal, affamé, et fit feu. L'ours tomba par terre. Tous accoururent, les portes s'ouvrirent. Cyril Pietrovitch entra étonné du dénouement amené par sa plaisanterie. Cyril Pietrovitch voulait absolument éclaircir toute l'affaire. Qui avait prévenu Desforges de la plaisanterie préparée pour lui? Et pourquoi avait-il sur lui un pistolet chargé dans sa poche? Il envoya chercher Marie. Celle-ci accourut et traduisit au français les questions de son père. « Mais je ne savais rien de l'ours, » répondit Desforges. « Mais je porte toujours sur moi des pistolets. parce que je ne suis pas disposé à souffrir une offense pour laquelle, à cause de ma profession, je ne puis pas exiger de réparation. » Marie le regardait avec étonnement et traduisit ses paroles à Cyril Pietrovitch. Celui-ci ne répondit rien. Il donna l'ordre de retirer l'ours et de le dépecer. Ensuite, se tournant vers ses gens, il dit « Quel gaillard ! Il n'a pas eu peur, ma foi, il n'a pas eu peur !» À partir de ce moment, il commença à aimer des forges et ne pensait plus à le mettre à l'épreuve. Mais cet incident produisit une grande impression sur Marie Kirillovna. Son imagination était frappée. Elle voyait l'ours mort et des forges debout sur lui, causant tranquillement avec elle. Elle voyait que le courage et l'amour-propre orgueilleux n'appartiennent pas exclusivement à une caste, et depuis lors, elle commença à témoigner au jeune précepteur une estime qui, d'heure en heure, devint plus attentive. Entre eux s'établirent quelques rapports. Marie avait une jolie voix et de grandes capacités musicales. Desforges s'offrit à lui donner des leçons. Ensuite, il n'est pas difficile au lecteur de deviner que Marie devint amoureuse de lui, sans toutefois se l'avouer encore à elle-même. La veille de la fête, les invités commencèrent à arriver. Les uns s'installèrent dans la maison seigneuriale et dans les ailes, les autres chez l'intendant, d'autres chez le prêtre, et d'autres enfin chez les paysans aisés. Les écuries étaient pleines de chevaux, de routes, les cours et les hangars étaient encombrés d'équipages divers. À 9 heures du matin, on annonça la messe, et tous se dirigèrent vers une église de pierre, construite par Cyril Pietrovitch et ornée actuellement de ses libéralités. Il y avait une telle quantité de pénitents de marque que les simples paysans ne pouvaient trouver la place et se tenaient à l'entrée de l'église et sur le parvis. La messe n'était pas commencée et on attendait Cyril Pietrovitch. Il arriva en calèche à 6 chevaux et solennellement se rendit à sa place, accompagné de Marie Kirillovna. Les regards des hommes et des femmes se tournèrent vers elle. Ceux-ci admiraient sa beauté et celle-là examinait sa toilette avec attention. La messe commença. Les chantres chantaient au chœur. Cyril Pietrovitch les accompagnait de la voix tout en priant, sans regarder ni à gauche ni à droite, et lorsque le prêtre fit mention du fondateur du temple, il salua jusqu'à terre avec une humilité pleine d'orgueil. La messe finie, Cyril Pietrovitch alla le premier baiser la croix. Tous le suivirent en foule. Les voisins s'avancèrent vers lui avec déférence. Les dames entourèrent Marie. Cyril Pietrovitch, en sortant de l'église, les invita tous à dîner chez lui, s'assit dans la calèche et se rendit à la maison. Tous le suivirent. Les appartements se remplirent d'invités. À chaque instant, entraient de nouvelles figures et avec effort, se frayaient un passage jusqu'au maître de la maison. Les dames étaient assises en demi-cercle. Leur toilette était passée de mode, usée, quoique rusée et couverte de pierres précieuses et de brillants. Les hommes se pressaient autour du caviar et de l'eau-de-vie et causaient entre eux un grand bruit. Dans la salle, on mettait la table pour 80 couverts. Les domestiques allaient et venaient, plaçaient les bouteilles et les carafes et ajustaient les nappes. Enfin, le maître d'hôtel annonçait « Le dîner est servi !» Cyril Pietrovitch passa le premier pour s'asseoir à table. Après lui vinrent les dames, qui, avec un air d'importance, choisirent leur place en tenant compte d'une certaine ancienneté. Les demoiselles se pressaient comme un timide troupeau de biches et s'assirent l'une à côté de l'autre. En face se placèrent plusieurs hommes. Au bout de la table s'assit le précepteur à côté du petit Alexandre.
Les domestiques commencèrent à servir en observant le rang des convives et se guidèrent, en cas de doute, sur les conjectures de l'avataire et presque toujours sans faute. Le bruit des assiettes et des cuillères se mêlait à la bruyante conversation des invités. Cyril Pietrovitch parcourait joyeusement des yeux sa tablée et jouissait de son hospitalité. À ce moment, une calèche attelée de 6 chevaux entra dans la cour. « Qui est-ce ? » demanda l'amphitryon. « C'est Antoine Pafnoutitch, » répondirent plusieurs personnes. Les portes s'ouvrirent, et Antoine Pafnoutitch Spitzin, gros homme d'environ 50 ans, au visage rond et grêlé, orné d'un triple menton, fit irruption dans la salle à manger en saluant, souriant et prêt à s'excuser. « Un couvert ici !» cria Cyril Pietrovitch. « Sois le bienvenu, Antoine Pavlovitch, assieds-toi. Dis-nous donc ce que cela signifie. Tu n'étais pas à ma messe et tu arrives en retard au dîner. Oh, je ne t'attendais pas, cela de toi. Tu es religieux et tu aimes la bonne chère. » « Oh, pardon, » répondit Pavlovitch en passant sa serviette dans la boutonnière de son caftan. Couleur poire. Pardon, cher Cyril Pietrovitch, je m'étais mis en route de bonne heure, mais j'avais pas fait diverse que la jambe d'une de mes routes devant s'est cassée, alors que me restait-il à faire? Heureusement, c'était pas loin d'un village, pour traîner la voiture jusque-là, chercher le charron, et tant bien que mal raccommoder tout, il m'a fallu 3 heures, que pouvais-je faire? Quant à prendre le plus court chemin à travers la forêt de Kistetskova, j'ai pas osé, j'ai fait le grand tour. Ah ah, s'interrompit Cyril Pietrovitch, on voit que t'es pas un brave à 3 poils. Que crains-tu? Comment ce que je crains, cher Cyril Pietrovitch? Mais c'est Dubrovski. Il fait pas son bon tomber sous sa patte. Il manque jamais son coup, il n'épargne personne. Et le bois, il aurait peut-être exigé double rançon. Et pourquoi, cher ami, une telle distinction? Comment pourquoi, cher Cyril Petrovitch? Mais à cause du procès d'André Galilovitch. N'est-ce donc pas moi qui, pour vous satisfaire, c'est-à-dire en conscience et en toute justice, a déposé que les Dubrovski possédaient Kostelova sans aucun droit? Et seulement par suite de votre indulgence, et le défunt, oh, que Dieu ait son âme, avait promis de faire mon affaire à sa manière. Aussi le fils tiendrait peut-être la parole de son père. Jusqu'à présent, Dieu m'a protégé. Jusqu'à ce jour, on a seulement pillé un hangar. Mais on pourrait bien arriver jusqu'à ma maison. Et dans la maison... « Ils en auront à gogo, remarqua Cyril Petrovitch. J'y connais une cassette rouge bien pleine. »« Bon, cher Cyril Petrovitch, elle était pleine, mais maintenant, elle est tout à fait vide. »« Allez, assez de blagues, Antoine Pavlovitch, nous nous connaissons. »« À quoi employer de votre argent? Chez toi, tu vis comme un ours, tu reçois personne, tu gruges tes paysans. » Je sais bien que tu fais des économies. Mais vous voulez plaisanter, cher Cyril Petrovitch, marmotta Antoine Pavlovitch en souriant. Mais en vérité, nous sommes ruinés. Et Antoine Pavlovitch avala la plaisanterie avec un morceau de kouliébia gras. Cyril Petrovitch le laissa et s'adressa au nouveau commissaire de police qui, pour la première fois, était invité chez lui et était assis à l'autre bout de la table à côté du précepteur. « Eh bien, monsieur le commissaire, montre un peu ton adresse et passe-nous Dubrovski. » Le commissaire, confus, salua, sourit, bégaya et dit enfin « Nous ferons notre possible, Excellence. »« Notre possible ?» Il y a longtemps que vous faites votre possible pour débarrasser notre contrée des malfaiteurs. Personne ne sait s'y prendre. Mais en vérité, pourquoi le prendre?
Les méfaits des Dubrovski sont des bienfaits pour les commissaires. Les patrouilles, les poursuites, les convois sont autant de raisons de mettre de l'argent dans la poche. On ne le prendra pas. Comment anéantir un tel bienfaiteur? N'est-ce pas vrai, monsieur le commissaire? C'est la pure vérité, votre excellence, répondit le commissaire tout confus. Les invités pouffaient de rire. J'aime la franchise de ce gaillard, dit Cécile Petrovitch. Je regrette le commissaire défunt. Si on n'avait pas brûlé vif, tout serait tranquille dans le canton. Et que dit-on de Dubrovski? Où l'a-t-on vu la dernière fois? Chez moi! Cécile Petrovitch! Cria une grosse voix de femme. Mardi dernier, il a dîné chez moi! Tous les regards se tournèrent vers Anne Savichena Globova, veuve assez simple, que tout le monde aimait à cause de son caractère bon et gai. Tous se préparèrent à écouter son récit avec curiosité. Et il faut vous dire qu'il y a 3 semaines de cela, j'avais envoyé un employé porter à la poste une lettre pour mon fils Jean. Oh, je ne le gâte pas, mon fils, et je ne suis pas en état de le gâter, même si je le voulais. Cependant, vous savez vous-même qu'un officier de la garde doit s'entretenir d'une manière convenable, et je partage comme je peux mes revenus avec Jeannot. Je lui avais donc envoyé 2 000 roubles. Bien que j'eusse pensé plus d'une fois à Dubrovski, je pensais en moi-même, « Oh, la ville est proche, en tout cette verste, Dieu me protégera. » Et que vois-je le soir? Mon employé revient tout pâle, déchiré à pied. En le voyant, je poussai un cri. « Mais qu'est-ce? Que t'est-il arrivé ?» Et il me répond. « Cher patron Anna Savichena, les malfaiteurs m'ont dépouillé, ils ont failli me tuer. Dubrovski lui-même était là, il voulait me pendre. » Mais il a eu pitié de moi, il m'a lâché, mais en revanche, il m'a tout pris, le cheval, la voiture. Alors j'étais glacé d'effroi, Dieu du ciel, que deviendra mon Jeannot? Il n'y avait rien à faire, j'écrivis une nouvelle lettre, je lui racontais tout et je lui envoyais ma bénédiction sans un sou. 2 semaines s'écoulèrent. Un beau jour, une calèche arrive dans ma cour. Un général demande la permission de me voir. Je le reçois. Un homme de 35 ans environ, le teint basané, les cheveux noirs, portant la moustache et la barbe, en un mot, le vrai portrait de Kouinov entre dans mon salon. Il se présente comme l'ami et le collègue de feu mon mari Jean Andreevitch. Il passait devant ma propriété et il ne pouvait pas ne pas s'arrêter chez la veuve de son ami, sachant que je vivais là. Alors je l'ai régalé le mieux que j'ai pu. Je lui ai parlé de choses et d'autres, et finalement de Dubrovski. Je lui ai raconté mon chagrin. Mon général a froncé le sourcil. « C'est bizarre, dit-il. » Je vais vous dire que Dubrovski n'attaquait pas tout le monde, mais seulement certains richards, qu'il partageait avec eux et qu'il ne les dépouillait pas entièrement. Et personne ne l'accuse d'assassinat. N'y a-t-il pas là quelques friponneries? Faites donc appeler votre employé. On alla chercher l'employé, il arriva. À peine eut-il vu le général qu'il resta stupéfait. « Raconte-moi, mon ami, comment Dubrovski t'a dépouillé et comment il voulait te pendre. » Mon employé se mit à trembler et tomba aux pieds du général. « Cher petit père, je suis coupable. Le péché m'a entraîné, j'ai menti. »« S'il en est ainsi, répondit le général, raconte donc à ta maîtresse comment tout cela est arrivé, j'écoute. » L'employé ne pouvait arriver à se souvenir. « Eh bien quoi ?» continua le général. « Raconte. Où as-tu rencontré Dubrovski ?»« Mais aux deux pains, petit père, aux deux pains. »« Et que t'a-t-il donc dit ?»«
Ben, il m'a demandé chez qui je servais, où j'allais, pourquoi. Eh bien, et ensuite? Ensuite, il a exigé la lettre et l'argent, et puis, ben, je lui ai donné la lettre et l'argent. Et lui, qu'a-t-il fait? Eh bien, lui, il a... Oh, pardon, mon petit père. Eh bien, lui, il a quoi fait? Il m'a rendu l'argent et la lettre en disant... Que Dieu te garde, porte cela à la poste. Eh bien, mon petit père, je suis coupable.
Je vais te faire ton affaire, mon gaillard, lui dit servement le général. Et vous, madame, donnez l'ordre de fouiller dans la malle de ce gredin et confiez-le-moi. Je lui donnerai une leçon. Sachez que Dubrovski était lui-même officier de la garde et qu'il ne voudrait pas offenser un collègue.
Alors, je compris qui était ce général. Il n'y avait pas à discuter avec lui. Les cochers attachèrent mon employé au siège de la calèche. On retrouva l'argent et le général dîna avec moi. Ensuite, il s'en alla et emmena avec lui l'employé que l'on trouva dans la forêt le lendemain, nu, comme un ver et attaché à un chêne.
Tous avaient écouté en silence le récit d'Anne Savichenna, surtout les dames. Beaucoup d'entre elles, en secret, voulaient du bien à Dubrovski, voyant en lui un type de héros romanesque et principalement Marie Krylovna, à cause de son imagination ardente nourrie des horreurs mystérieuses de Radcliffe.
« Et toi, Anna Savichenna, penses-tu que tu aies eu chez toi Dubrovski lui-même ?» demanda Cyril Petrovitch. « Tu te trompes fort. » Je ne sais pas qui était en visite chez toi, mais seulement ce n'était pas Dubrovski.
Mais comment, mon cher, est-ce que cela ne pouvait pas être Dubrovski? Mais alors, qui donc, si ce n'est lui, s'en va arrêter les passants sur la grande route et les fouiller?
Bon, je ne sais pas, mais ce n'est certainement pas Dubrovski. Je me le rappelle, enfant. Je ne sais pas si ses cheveux ont noirci. Alors, c'était un enfant aux longues boucles blondes. Mais je sais pour sûr que Dubrovski est de 5 ans plus âgé que Marie, et que par conséquent, il n'a pas 35 ans, mais environ 23.
C'est exact, votre excellence, s'écria le commissaire. J'ai dans ma poche le signalement de Vladimir Dubrovski. Il a dit justement qu'il a 23 ans.
Oh, dit Cyril Pietrovitch. À propos, lisez ce signalement, nous écoutons. Ce sera pas mal de savoir son signalement. Si nous le rencontrons par hasard, il ne nous échappera pas.
Le commissaire tira de sa poche une feuille de papier assez sale, l'ouvrit et majestueusement se mit à lire en traînant les mots. Signalement de Dubrovski, reconstitué d'après les indications de ses anciens serfs, 22 ans, taille moyenne, teint pur, se rase, yeux marrons, cheveux châtains, nez droit. Signe particulier, aucun.
Et c'est tout, dit Cyril Pietrovitch.
C'est tout, répondit le commissaire en repliant son papier.
Je vous félicite, monsieur le commissaire. Voilà un document. D'après le signalement, il ne sera pas difficile de trouver Dubrovski. Qui donc n'est pas de taille moyenne, qui donc n'a pas les cheveux châtains, le nez droit et les yeux marrons. Je parie que tu parleras 3 heures avec Dubrovski sans te douter avec qui Dieu t'a fait rencontrer. Il n'y a rien à dire. Elle est intelligente, votre administration.
Le commissaire remit humblement son papier dans sa poche et sans dire mot se mit à manger son noix au chou. Cependant, les domestiques faisaient le tour de la table et versaient à boire à chacun. Plusieurs bouteilles de vin mousseux furent débouchées avec bruit et furent accueillies avec bienveillance sous le nom de champagne. Des visages commençaient à rougir et les conversations devenaient plus bruyantes, plus décousues et plus joyeuses.
« Non !» continua Sili Petrovitch. Nous ne reverrons jamais le commissaire comme feu Taras Alexievitch. Celui-là n'était ni un niais ni un badaud. C'est dommage qu'on ait brûlé vif le gaillard. Autrement, il n'aurait pas manqué un seul de toute la bande. Oh, il les aurait tous pincés jusqu'au dernier, et Dubrovski lui-même n'aurait pas échappé. Taras Alexievitch aurait bien accepté de l'argent de lui, mais il ne l'aurait pas lâché. C'était son habitude. Il n'y a rien à faire que d'aller moi-même à la recherche des brigands avec mes gens. Oh, à la première occasion, je prendrai une vingtaine d'hommes et ils nettoieront la forêt des brigands. Les hommes ne sont pas peureux. Chacun d'eux va seul à la chasse, à l'ours, et devant les brigands, ils ne reculeront pas. Votre ours est-il en bonne santé, cher Cyril Petrovitch ? Demanda Antoine Pavlovitch, se souvenant de sa vieille connaissance velue et de certaines plaisanteries dont il avait été autrefois la victime. « Micha n'est plus !» répondit Cyril Petrovitch. « Il est mort glorieusement de la main de l'ennemi. Voilà son vainqueur !» Cyril montra le précepteur français. « Il t'a vengé, ne t'en déplaise. T'en souviens-tu ?»« Comment ne pas se souvenir ?» dit Antoine Pavlovitch en se grattant l'oreille. « Oh, je m'en souviens très bien. Alors Micha est mort. Oh, c'est dommage, en vérité, c'est dommage. Comme il était amusant, comme il était intelligent, on n'en trouvera pas un autre comme lui. Et pourquoi monsieur l'a-t-il tué ?» Cyril Petrovitch, avec une grande satisfaction, se mit à raconter l'exploit de son français, car il avait l'heureuse faculté de s'enorgueillir de tout ce qui l'entourait. Les invités écoutaient avec attention le récit de la mort de Micha et avec étonnement considéraient Desforges qui, sans se douter que la conversation roulait sur son courage, était assis tranquillement à sa place et faisait des observations morales à son pétulant élève. Le dîner, qui s'était prolongé pendant 3 heures, prit fin. L'amphitryon posa sa serviette sur la table. Tous se levèrent et s'en allèrent dans le salon où les attendaient le café, les cartes et la continuation des libations si bien commencées dans la salle à manger.